Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 29 novembre 2018. C'est Yvan Deslauriers qui vous parle. Et avec moi en studio, aujourd'hui, on a une équipe réduite, mais pas l'équipe réduite qu'on a habituellement quand je suis là. D'habitude,
exactement.
C'est Marie qui est là, puis
oui.
Toi,
puis Monique n'est pas là.
Mais Marie a eu des engagements imprévus, personnels.
Mm-hmm.
Ça arrive maintenant avec nos mamans. Alors, on espère la revoir jeudi prochain avec nous.
Bien sûr.
Et en régie, il y a Maurice qui va nous accompagner, puis il va essayer de faire une émission bien attachée avec nous deux.
C'est ça.
Alors, Monique, qu'est-ce que vous nous présentez en première partie de cette émission?
Alors, en première partie, d'un sujet qui a un lien avec l'écologie. Est-ce qu'on peut imaginer que des oiseaux de mer puissent protéger les corails? Les coraux, pardon.
Les coraux?
Les coraux.
Pourquoi pas? Je ne sais pas.
Pourquoi pas?
Je ne m'étais pas posé la question jusqu'à présent.
Ben oui, c'est possible.
Jusqu'à hier soir, quand j'ai vu vos articles.
Alors, je vais vous décrire comment on a procédé à cette évaluation. Et ensuite, peut-être une rumeur urbaine ou je ne sais pas, les aveugles auraient un meilleur odorat que les voyants.
Ah oui, moi je pense que c'est une rumeur. Ben, je ne sais pas si c'est une rumeur urbaine,
mais c'est un fait
hein.
Pour vous, n'est-ce pas?
Une croyance.
Une croyance.
Une croyance.
Bon, alors, je vais défaire cette croyance-là. Mais à partir d'un sujet bien précis, sentir le vin.
Oh, quand même.
Oui.
Est-ce qu'il y a des travaux pratiques?
Pas ce matin.
Pas ce matin. Ah bon, tant pis. Et de mon côté, je vais faire une suite un peu surprenante à mon article de la semaine dernière, qui a connu un enthousiasme plutôt faible sur les aventures en igloo.
Oui, parce que Marie et moi, on n'apprécie pas beaucoup. Là.
Pas vraiment, mais celle-là, je risque d'avoir une meilleure faveur à tout le moins de votre part, Monique.
Mm-hmm.
Et puis, je raconterai ça à Marie tout seul. Et je vous raconte ensuite l'histoire d'une coureuse pour qui la course en sentier a vraiment changé la vie.
Ce sera
alors,
intéressant, ça.
C'est notre début pour aujourd'hui. Donc, Monique, il y aurait un lien entre les oiseaux de mer et la protection des coraux.
Oui, vous allez voir, c'est assez intéressant. En fait, c'est un article de Bérénice Robert pour la revue La Recherche de septembre 2018 et il s'intitule « Les oiseaux de mer, protecteurs des écosystèmes coralliens ». Alors, d'abord, je vais définir le mot « guano » que je vais utiliser. En fait,
moi, je sais, c'est quoi?
oui, hein, c'est les excréments de ces oiseaux de mer.
Ouais.
Et un peu plus tard, j'utiliserai le terme « traçage isotopique ». Alors,
oui.
En fait, c'est une façon d'évaluer l'interaction entre des éléments qui sont, en fait, de l'atome. Alors, c'est vraiment minuscule là, comme analyse.
Okay.
D'accord?
Oui.
Alors, je commence donc en vous disant que c'est grâce à leur guano, c'est-à-dire engrais composé des excréments de ces oiseaux de mer, qui participent, dirait-on, à la bonne santé des récifs coralliens. Alors, c'est ce qu'ont découvert des chercheurs d'une équipe internationale qui mène une étude sur l'archipel des Chagos. L'archipel des Chagos se trouve au cœur de l'océan Indien. Alors, les chercheurs se sont concentrés sur 12 îles. 6 sont infestées par des rats qui ont été introduits par l'homme et 6 autres sont épargnées. Alors, ils ont ainsi constaté que les îles sans rats comptent 1243 oiseaux par hectare.
Oui.
Ah, c'est énorme quand même, comparativement à 1,6 sur les îles où on trouve les rongeurs.
1,6?
Oiseaux.
Oh!
Vous voyez la disproportion, là, c'est assez...
Quand les rats sont rois, il n'y a pas d'oiseaux.
Il n'y a pas d'oiseaux, carrément. Alors, c'est vraiment l'un des points forts de ce travail. En fait, c'est qu'il est difficile de trouver un espace de contrôle où on ait ces deux réalités en fait, qui ne constitue qu'un paramètre différent d'évaluation, la présence des rats. Alors, c'est un lieu très particulier pour étudier les écosystèmes. Le guano des oiseaux de mer contient notamment de l'azote. C'est un nutriment essentiel à la croissance des plantes, des algues et aussi des coraux. Alors, pour chacun des écosystèmes, de ces écosystèmes, les chercheurs, les auteurs ont donc estimé l'apport du guano grâce au traçage isotopique dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a remarqué que l'azote est très important dans les tissus des plantes, des algues et des coraux. Alors, un rapport isotopique élevé est le signe d'un apport de nutriments important en provenance du guano. Les chercheurs ont donc pu établir que cet apport était 251 fois plus important dans les îles saines, donc sans les rats,
Sans erreur, oui.
comparativement donc aux îles infectées.
C'est l'équivalent des temps du fumier dans les champs.
Et c'est du bon fumier, semble-t-il. Plus surprenant, cet apport profite aussi aux récifs coralliens qui sont adjacents aux îles et des îles, encore une fois, qui ne sont pas infectées. Donc, en étudiant également le cas du poisson demoiselle, n'est-ce pas joli comme nom, les auteurs ont remarqué que les poissons de cette communauté qui vivaient près d'une île saine grandissent plus vite aussi et sont plus gros au même âge que leurs congénères qui se promènent autour des îles infectées.
Oui.
Alors, c'est la première preuve de l'accélération de la croissance d'un vertébré marin à partir d'un apport de nutriments issus des oiseaux et qui s'est propagé, en fait, à travers la chaîne alimentaire. Plus globalement, les communautés de poissons sont 48% plus importantes à proximité des îles saines que près des îles infestées, en fait. Or, ces communautés jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé des récifs coralliens. Le guano contient du phosphore, un autre élément important, nutriment qui améliore la résistance des coraux aux chocs thermiques et au blanchissement. On sait que quand les coraux blanchissent, c'est qu'ils s'acheminent vers la mort.
Comme bien les gens.
Peut-être, là, je ne sais pas. J'ai pas de commentaire sur cette
Quand
remarque.
les cheveux blanchissent, on
Ah,
sait.
c'est ça. Alors, donc, il est très important sur les îles où il y a des rats d'éradiquer. Ça devient une priorité dans cet univers-là et ça nous indique que peut-être qu'il y a bien des endroits, d'autres îles où il faudrait procéder ainsi. Parce que, entre autres, les coraux, on le sait, sont menacés. 75% des coraux ont déjà disparu lors du dernier épisode de blanchiment en 2016.
Oh là là.
Ce qu'on ne dit pas, c'est est-ce que cette période de blanchiment couvre bien d'autres archipels, mais on sait entre autres qu'en Australie, il y a des problèmes par rapport au blanchiment des massifs de coraux. Alors, c'était un article de Bérénice Robert pour la revue La Recherche de septembre 2018.
Merci beaucoup, Monique. Alors, la semaine dernière, je vous amenais en aventure en igloo. Et je n'ai pas reçu un enthousiasme délirant. Alors, je m'essaye cette semaine avec d'autres choses. Ça s'appelle des micro-refuges pour amoureux. Ça a été écrit par Frédéric Sauvé dans le site du magazine Espace le 29 novembre 2017.
D'accord.
Comme...
Déjà, le mot amoureux, ça vient
Oui,
nous rejoindre un peu
c'est
plus.
plus chaleureux, hein?
Ouais, c'est ça.
Alors, même si ça fait un an, j'ai regardé tous les hyperliens dans cet article-là et ils fonctionnent encore tous. Alors, ça fonctionne encore en 2018. Je commence par un wagon de berger. C'est dans les kayaks cafés, dans les Laurentides. J'ai rien compris du début, mais suivez-moi. Immergez-vous dans un univers nordique tout en bois de cèdre et en confort, comme les Scandinaves savent si bien s'entourer. Créés pour les couples en quête de rapprochement avec la nature, les wagons de berger de kayak-café sont des mini-roulottes posées au beau milieu d'un sous-bois enneigé. C'est comme des roulottes de gitan, vraiment, ça ressemble à ça. On passe la fin d'après-midi à se réchauffer autour d'un chocolat chaud et du feu de camp extérieur avant de se glisser dans le charme et la simplicité du wagonnet. Pour ceux qui ne voudraient pas cuisiner, des repas prêts à manger, sont disponibles à l'accueil du site, de même que les installations sanitaires, toilettes et douches. pour à peu près 120 $ par nuit. Ensuite, on va dans Charlevoix. Ça s'appelle Mahican. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. Mahican, repère boréal. Et pour cela, minimaliste sans pour autant lésiner sur le confort, il y a eau, électricité et Wi-Fi.
Mm-hmm.
Les deux micro-cubes Mahican donnent la part belle à la nature environnante avec leurs fenêtres verticales qui montent jusqu'à la moitié du toit.
Ah, ça me va.
Attendez, il y a d'autres choses. Mais avant de s'encabaner, il faut profiter jusqu'à satiété du spa nordique de Repère Boréal et de son jacuzzi sauna scandinave et douche froide au milieu de la forêt d'épinettes.
Non, ça y est.
Intimité garantie puisque seuls les locataires des hébergements y ont accès. Puis retour au mini-bercail pour bien terminer la soirée. Au milieu de l'espace restreint du Mahican, trône un lit douillet digne des grands hôtels sur lesquels on se laisse tomber avec délice dans les draps, dans les bras ou les draps de Morphée pour une $100 par nuit.
Mm-hmm.
Ou bien vous pouvez passer la nuit dans une yourte. Mm-hmm. C'est comme une tente plus rigide, si on veut.
Oui, oui,
ça
oui.
S'appelle Imago Village à Saguenay.
C'est les Mongols qui...
Oui, dans le sens de la Mongolie.
Oui, de la Mongolie, oui, oui. Vivent dans les...
Dans les yourtes.
Yourtes. Pardon,
oui, après une belle journée de ski ou de raquette dans la neige 100% naturelle de la station du Valinouet, direction votre yourte, déjà bien chauffée, et sa vue sur le massif des monts Valin. Tel un petit village de maisons de schtroumpfs, l'Imago Village propose 6 unités colorées de glamping hivernal. C'est une sorte de camping glamour.
Oh, pas l'air.
Hormis la douche, qui est accessible dans un bloc sanitaire proche, vous disposerez de toilettes sèches, d'un lit double, d'un divan, d'un poêle à bois, d'un micro-ondes pour y faire fondre votre chocolat et y tremper vos fruits préférés. Après une douce nuit passée au son du vent dans les sapins alentour, vous vous réveillerez dans la belle lumière du matin pour à peu près $150 pour la nuit. Et le dernier que je fais dans cette intervention-ci, ça s'appelle les chalets EXP dans le parc national du Mont Mégantic dans les cantons de l'Est. Et là, Monique, écoutez bien.
Mm-hmm.
Pourquoi choisir les chalets EXP du Mont Mégantic plutôt que ceux d'un autre parc national? Parce qu'ils sont les seuls à offrir une vue directe sur les étoiles depuis le lit conjugal à travers leur voûte transparente.
Oh là là.
Un romantisme hors pair qui dépeindra bien sûr sur la clarté du qui dépendra bien sûr sur la clarté du ciel et des dernières précipitations de neige accumulées ou non sur le toit du chalet. Si vous ne voulez pas prendre de chance, vous réservez 2 places à la soirée d'astronomie hivernale de l'Astrolabe à la base de la montagne, c'est le samedi soir seulement. De retour au chalet en fin de soirée, faites jouer la playlist préférée de votre partenaire et envolez-vous tous les deux jusqu'à la stratosphère pour une nuit de $135 environ.
Très attrayant.
Ouh, il y a les igloos!
Ah non! On n'en revient pas sur le sujet.
Alors, un peu de musique.
Sur mon château de sable, tu as détruit mon refuge misérable. Tu n'as pas vu que j'attendais dans l'ombre, que je suffoquais sous tes décombres. Comme un taureau, je courais dans l'arène, la tête baissée, je ne voyais plus rien. Je fonçais droit sur le drapeau rouge et je valsais en rond avec la haine. Le tonnerre ne cessait de gronder, les oiseaux ne savaient plus voler et le bonheur ne faisait que passer devant ma porte sans jamais s'arrêter. Les heures passées à ruminer mes peines et à savourer toutes mes amertumes n'ont rien laissé à quoi vraiment je tienne. Des jours gris, des regrets, de l'écume. Au fond, je sais que derrière la façade, nous sommes tous frères de solitude et que la haine ne faisait que creuser un grand tombeau où j'allais me vautrer. Le tonnerre ne cessait de gronder. Les oiseaux ne savaient plus voler. Et le bonheur ne faisait que passer devant ma porte sans jamais s'arrêter. Prospères et sur leur trône les lois du pardon tiennent les rênes de ma liberté. Comme les soldats un jour reviennent, comme les marins échouent sur la terre ferme, comme l'océan purifie les peines, l'amour s'acharne à couler dans mes veines.
Émilie Clépaire, les oiseaux.
Oh, les oiseaux!
Ben oui, c'était planant.
Comme la première intervention.
Oui, c'est ça.
Mais là, on s'en va dans une direction bien différente.
Oui, olfactive.
Olfactive, et en me préparant pour ma présentation, là, je me suis surpris à fermer les yeux.
Ben exactement, c'est ce qu'il faut faire.
C'est ça qu'il faut faire, hein?
Ah, peut-être. Mais on verra.
J'ai seulement du lait au chocolat aujourd'hui.
Oui, ça ne marchera pas avec ça. Ouais. Alors, c'est un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'UdeM du 8 novembre 2018. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont démontré, en fait, différentes études qui ont démontré que les personnes aveugles possèdent certains sens plus développés, dont le toucher, pour compenser l'absence de vision. Et ce ne serait pas le cas. En fait, tout à fait le cas pour l'odorat, du moins lorsqu'il s'agit de catégoriser des vins. Alors, vous voyez, c'est un sujet bien précis, mais vous allez voir, en fait, il y a des bémols à tout ça et d'accord. C'est intéressant. Mm-hmm. En fait, c'est ce que révèlent les résultats d'une étude qui a été menée par la doctorante Simona Manescu, qui travaille, entre autres, avec Joanne Franelli, de l'Université du Québec à Trois-Rivières et un autre professeur, le professeur Franco Leport de l'Université de Montréal. Alors, qui sont un au département de psychologie et l'autre en anatomie. Donc, vous voyez la complémentarité, en fait, l'interdisciplinarité.
Je vois.
Alors, non seulement leur odorat ne serait pas meilleur que celui des personnes voyantes pour classer les vins, mais il serait même moins performant pour déterminer si deux vins sont d'une même couleur.
OK.
Les études antérieures sur l'odorat des personnes aveugles sont parvenues à des conclusions mitigées, entre autres parce que on utilisait des tests discriminatoires en contexte artificiel. Donc, c'est très important de ne se placer dans une situation réelle.
Oui,
et c'est ce que nous allons voir tout de suite.
Vous sentir, oui.
Alors, l'équipe des chercheurs a plutôt opté pour un test scientifiquement réputé difficile et qui peut être reproduit dans la vie de tous les jours, établir s'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin blanc ou d'un vin rosé. Ce dernier étant, semble-t-il, plus difficile à catégoriser, même par les œnologues. Alors, l'équipe de chercheurs de Mme Manescu a recruté 12 personnes nées aveugles ou l'étant devenues à très bas âge. Okay. Cette nuance est très importante. Mm-hmm. Ainsi que 12 personnes voyantes. Alors, toutes les personnes se sont bandées les yeux. Donc, tu avais raison, Yvan, de te fermer les yeux.
Okay.
Et les participants ont humé 15 vins, 5 rouges et autant de blancs et de rosés. Qu'on leur a présenté deux verres à la fois. Dans un premier temps, ils devaient déterminer si les vins étaient ou non de la même couleur. Et à ce test, les personnes aveugles ont moins bien réussi que les personnes voyantes. Ensuite, on leur soumettait deux vins de la même couleur qui devaient dire si les deux vins contenaient le même type de vin ou pas. Et cette fois, les résultats ont été similaires pour les deux groupes de participants. Ensuite, ils ont dû classer, toujours par leur odorat, chacun des 15-20 en fonction de leur couleur. Pour l'ensemble des volontaires, il a été plus facile de catégoriser les vins rouges, puis les vins blancs et finalement les vins rosés. Toutefois, les personnes aveugles ont mis plus de temps pour réaliser cette catégorisation. Alors, les résultats indiquent que, en plus de ne pas avoir un odorat supérieur aux personnes voyantes pour désigner les catégories de vins, les personnes aveugles ont éprouvé plus de difficultés à discriminer deux sortes de vins. Alors, pour le professeur Franelli, qui encadre notre doctorante, ces résultats alimentent l'hypothèse selon laquelle le sens de l'odorat est influencé par la vue. Parce qu'on a vu, je comprends. D'accord. Et Mesdames Manescu et Franelli nuancent aussi la portée de leurs résultats. Si l'on considère que l'aspect visuel semble central dans la construction du sens de l'odorat, les personnes qui ont perdu la vue, à un âge plus avancé pourraient avoir une capacité olfactive tout aussi développée que les personnes voyantes. Alors, c'était leur conclusion.
Et surprenant.
Surprenant. Alors, c'était un article de Martin Lassalle du journal Forum de l'UdeM du 8 novembre dernier qui s'intitulait « Les aveugles n'ont pas un meilleur odorat que les voyants pour catégoriser les vins ».
Merci beaucoup. Pour ma part, je vous présente quelqu'un qui ne l'a pas eu facile. Elle s'appelle Isabelle Bernier. L'article, ça s'appelle « Le courage d'Isabelle Bernier ». J'ai trouvé ça dans le site du Réseau des sports, parce que je cherchais un résultat. Puis j'ai trouvé cet article-là sous la plume de Daniel Lequin, le lundi 26 novembre 2018. Isabelle Bernier ne l'a pas eu facile. Née à Baie-Comeau, dans un milieu dysfonctionnel, elle en porte toujours les séquelles aujourd'hui. Puis je vous fais grâce des différentes choses qu'elle a vécues. J'ai grandi dans un milieu difficile, sauf que j'ai réussi à demander de l'aide au fil des années. Je ne me considère aucunement comme une victime de la vie. Je suis en mesure de faire la paix avec ces éléments. J'adore la vie. Je fus pris dans un tourbillon, mais la trentaine m'aura permis l'évasion et une certaine révolution en moi s'est alors produite. Nous dit la coureuse de 40 ans, qui est enseignante à temps partiel, dans le coin d'Orford. Isabelle a dû mettre les bouchées doubles sur l'estime de soi et la confiance. Elle raconte qu'elle ne se voyait pas sur un fil de départ, trop intimidée. « Je dois me laisser aller et ne pas m'écouter. Juste sortir dehors, respirer, me soulage et je l'apprécie. » Attablée dans un café à Drummondville, elle raconte le jour où une dame l'a interceptée durant une course en sentier. Elle m'a dit que si ma mère me voyait, elle n'allait pas être fière de moi car mes souliers étaient recouverts de boue. Je lui ai répondu qu'au contraire, je crois qu'elle l'aurait été, relate Isabelle, dont la mère demeure dans une résidence à cause de sa maladie. Puis il y a ce cadeau du ciel qui lui est arrivé récemment. Elle en parle encore avec stupéfaction, tellement peu habituée à du positif. Tout commence en nous l'an dernier par son intention de devenir la première femme à courir le tour du lac Menfremagog en solitaire. Un défi de 123 kilomètres.
Oui, et assez vallonneux.
Hein. Oui, c'est dans des sentiers. Là.
Oui, c'est pas plat. Là.
Elle prendra 13h45 minutes pour l'accomplir. Inévitablement, les médias ont relaté son exploit. Je ne voulais pas ébruiter cette réalisation, mais j'ai des amis qui l'ont fait à ma place. Je trouvais ça gênant d'en parler.
Mm-hmm.
Vers la mi-septembre, cette année, elle a reçu une invitation d'Endurance Aventure afin de participer à une course de 109 km à 6 heures de Shanghai, en Chine, en pleine brousse. L'organisme défrayait toutes les dépenses. J'hésitais car je ne voulais pas laisser mes deux filles pour la première fois de ma vie pour un périple de 6 jours. Les membres de mon entourage ont insisté en me faisant comprendre que je n'avais pas le droit de refuser une telle opportunité.
Mm-hmm.
Seule représentante du Canada, Isabelle a adoré l'expérience qui lui a permis de voir des sites exceptionnels. Parmi 1500 participants, il lui a fallu 19h40 minutes pour franchir la distance, tout en reconnaissant qu'elle s'était perdue à quelques reprises.
Ah, mon Dieu!
À son retour, elle raconte à la blague que ses filles se demandaient quand elle allait repartir. La voilà maintenant qu'elle se permet de rêver. Tout va dépendre de ses moyens financiers, sinon elle va courir autour de chez elle. Malgré cette situation précaire, pas question qu'elle s'apitoie sur son sort. Un jour, j'ai travaillé dans un petit café, j'ai vu des athlètes paralympiques qui venaient me parler et j'ai compris que dans la vie, nous pouvions éprouver chacun nos ennuis.
Mm-hmm.
Elle préfère la trail, la course en sentier, mm-hmm. à cause du décor et du rythme. Tu te dois d'être à l'écoute de ton corps. Je suis une personne qui réfléchit et qui pense beaucoup dans la vie. Le trail et son aspect humain lui permet de recevoir une certaine reconnaissance. Elle a envoyé une vidéo de sa course Maxi Race à Yangcheng, la course là, près de Shanghai. Et c'est à ce moment que j'ai constaté qu'elle avait terminé la première femme à franchir l'arrivée.
Ah.
Elle ne m'en avait pas parlé durant l'entrevue. Voilà une réflexion qui vient solidement nous chercher sur les bases essentielles de notre existence. Alors, je vous parlais du courage d'une dame qui s'appelle Isabelle Bernier. C'était dans le site RDS, Réseau des sports, sous la plume de Daniel Lequin.
J'ai changé le monde, livré le bon combat. Changé le monde, changé d'allure et de coiffeur. Je vais me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. J'ai changé le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Je veux faire ce que je veux faire et dire ce que je veux dire. Dites-moi quoi faire, je veux faire le contraire. Je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère cochon. Je vais changer le monde, choisir mon éclairage. Entouré de somnambules ou d'arachides. Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses. Je vais changer le monde et rire des grands débats.
Jim Corcoran, je vais changer le monde.
Merci. Alors, on a tellement jasé qu'on est déjà rendu à la pause et on vous revient dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, bye. Et nous revoici pour cette deuxième partie. On est toujours au Voix de service magazine. C'est Monique Kerouac et Yvan Deslauriers qui vous lisent des articles et les commentent et jasent et placotent.
C'est ça.
Alors, Monique, qu'est-ce que vous nous présentez en deuxième partie aujourd'hui?
Eh bien, je poursuis en écologie, en fait. Je vous lis un article qui a été rédigé par Cléo Bertelmeyer, Laurent Keller, Elisabeth Gordon pour la revue La Recherche de septembre 2018. Et je vous dirai le titre à la fin. Alors, mais je vous parle de fourmis.
Ouais, alors, si on a des fourmis dans les jambes.
Par temps. Exemple, elles sont petites, elles oui. passent inaperçues, mais grâce à leur organisation sociale, en fait, elles s'adaptent facilement à de nouveaux environnements. Et cela leur a permis, au cours des millénaires, de coloniser toutes les régions du globe.
OK.
Quelques exceptions, okay. quand même.
Là, êtes-vous dans votre article ou bien vous nous oui. dites que vous allez le lire bientôt?
Ben, je le lis, là.
OK, parfait.
J'ai pas l'air de le lire, hein, mais je pense que c'est l'objectif. Alors, ils ont colonisé, je disais, presque toutes les régions du globe, sauf où est-ce qu'il fait très froid. Alors, au Groenland, en Islande, en Antarctique et en Arctique.
Il n'y a pas de fourmis là-bas?
Il n'y a pas de fourmis.
Comment?
Il y a donc, c'est pas étonnant, donc, que parmi les 360 espèces animales que l'on considère envahissantes, et ça, c'est le verdict de l'Union internationale pour la conservation de la nature, parmi ces 360, 19 appartiennent à la famille des formicidés. on devine que c'est les fourmis, n'est-ce pas?
C'est assez formidable.
Oui, c'est ça. Oui. Oh là là, la belle blague. Alors, la plupart sont originaires d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Et une fois qu'elles arrivent sur les nouveaux territoires, elles se font très discrètes dans un premier temps, mais après un certain nombre d'années, elles se mettent à proliférer très rapidement. Alors, elles peuvent ravager, on le sait, les terres conquises. Elles se développent aux dépens des fourmis natives et portent, elles peuvent atteindre aussi, affecter la faune, la flore locale. Elles peuvent aussi nuire aux activités humaines, en particulier, on s'en doute, l'agriculture. Elles peuvent s'attaquer au bétail et détruire des stocks de grains. On dit qu'actuellement, aux États-Unis, les pertes économiques qui sont attribuées à certaines fourmis sont estimées, alors attachez vos tucles, à 6 milliards de dollars américains annuellement.
Est-ce que Donald Trump est au courant?
Ah, je ne pense pas, puis de toute façon, il dirait qu'elles sont trop petites pour faire tous ces dégâts.
Il les menacerait
probablement.
Mettre un mur sur les...
sur leur migration. Alors, certaines espèces sont particulièrement agressives. Il y en a une qui s'appelle la fourmi de feu et elle s'en prend même aux humains auxquels elle inflige des piqûres assez douloureuses. Bon, on peut se poser la question, par quels moyens ces fourmis sont-elles parvenues à coloniser, toutes ces fourmis, en fait, les 19 espèces, la planète? Alors, c'est ce qu'ont cherché à savoir certains chercheurs, mm-hmm. en étudiant surtout comment les échanges internationaux de marchandises ont favorisé la dispersion de ces espèces. Ils ont donc analysé la répartition de 241 espèces de fourmis que l'on dit non indigènes ou introduites ou encore exotiques.
Okay.
Et si elles ont toutes été introduites, transportées par l'intermédiaire d'activités humaines, certaines ne provoquent pas encore de gros dégâts. Elles ne sont pas encore envahissantes, mais les chercheurs se doutent qu'elles pourraient le devenir, comme je le mentionnais préalablement. Alors, la première vague de cette migration, en fait, mm-hmm. va du milieu du 19e siècle jusqu'en 1914, période durant laquelle les échanges de marchandises se sont multipliés. Avant d'être freiné par des événements dramatiques, la Première Guerre mondiale, le crash boursier en 1929 et à nouveau la Seconde Guerre mondiale. Après cet épisode de déclin, les activités économiques et les échanges commerciaux ont repris et donc l'essor des fourmis,
de la fourmi aussi,
et ce dans les années 1970, favorisant à nouveau la dispersion des fourmis. Vous oh. avez l'air vraiment...
non, mais j'étais surpris que le crash de 29 avait eu un impact sur les fourmis
parce que
à cause des échanges commerciaux.
Le commerce s'est ralenti. Alors, il faut se méfier des futures envahisseuses parce qu'une fois qu'elles colonisent un nouveau territoire, il est quasiment impossible de les déloger. Je parlais de la fourmi de feu, là. Ils ont essayé plein de façons et mm-hmm. Vraiment, ils ont dépensé des millions aux États-Unis et ils n'y arrivent pas. Alors, vous parliez de Trump tout à l'heure, Yvan, mais le meilleur moyen pour un pays de se préserver des fourmis exotiques reste donc d'agir de manière préventive en surveillant les frontières. Mais pas les frontières par petits pas, mais les marchandises, en fait, qui circulent. Alors, le rythme des échanges commerciaux, on le sait, s'accélère. Il devient donc plus que jamais crucial de prêter une grande attention afin de freiner ces envahisseurs les plus menaçants. Alors, c'était un article de Cléo Berl Meyer, Laurent Keller, Elizabeth Gordon, et l'article s'intitulait « Comment les fourmis ont colonisé la planète ».
Merci beaucoup, Monique. Et pour une belle lecture, là, il y a Bernard Werber, les fourmis
1,
2 et 3.
Exactement.
Puis là, ça nous les rend plus sympathiques. Alors, de mon côté, en deux parties, je vais vous lire le carnet d'endorphines de Geneviève Lefebvre d'hier, du 28 novembre. Et c'est un carnet d'endorphines qui nous donne des conseils à comment se préparer à Noël, pour arriver à Noël en forme.
Mm-hmm.
Alors, je commence. Noël, c'est dans moins d'un mois, ce qui donne amplement l'occasion d'accomplir deux exploits d'un coup. Manger tous les chocolats du calendrier de l'Avent dès le 1er décembre.
À condition que ce soit du chocolat à 70%.
Et ça, ça le dit pas, ça le dit pas.
D'accord.
Et se mettre en forme avant les fêtes, histoire de déjouer la malédiction des résolutions de janvier et de péter le feu au réveillon. Alors voici 13 conseils que je vais vous lire en deux parties.
D'accord.
Premier conseil, au réveil, marchez jusqu'à la machine à café. Parce que, on va se le dire, sans café, ce calendrier de l'Avent en mode actif restera du domaine de la chimère.
D'accord.
Pendant que ça percole, exécutez quelques mouvements dynamiques, sans témoin, juste pour se rappeler qu'on a un corps et que quand on en prend soin, on se met à notre service sans trop rechigner. Deuxième conseil, marchez jusqu'à la voiture, jusqu'au train, jusqu'au métro, jusqu'au boulot. Chacun sa distance, chacun sa réalité. L'important, c'est de mettre un pied devant l'autre, un peu plus qu'hier, un peu moins que demain, et nos meilleures salutations à Hallmark, dont les cartes de vœux ont si bien conditionné nos cerveaux à penser positif. Troisième conseil, j'ai fait ça aujourd'hui, descendre une station de métro avant la destination habituelle, marcher le reste du trajet, découvrir qu'il y a un atelier de cordonnier dont on ignorait l'existence, ça tombe bien, nos bottes préférées ont besoin d'amour.
Mm-hmm.
Quatrième conseil, à l'entrée du bureau, croisez Christiane, la gestionnaire de projet, qui prend les escaliers plutôt que l'ascenseur. Je connais quelqu'un qui fait ça aussi.
Ou croisez Monique.
Oui, ou croisez Monique. D'abord, la maudire. Elle a trop d'énergie, forcément, ça énerve. Puis, devant le rebond élastique de sa foulée de gazelle et son sourire irrésistible de charmeuse de serpent, la suivre dans l'escalier. « Attends-moi, cri-cri!
Bon. »« Attends-moi, maman!
» C'est ça. Cinquièmement, rendu en haut, signez le registre de la fondation Swab the World afin de devenir donneur. Quel est le rapport avec les escaliers? Eh bien, justement, Cricri, la gazelle Rochon, qui a cofondé Swab the World avec son amie May Duong, laquelle a eu un besoin d'une greffe de cellules souches pour soigner une récidive. Et Swap the World, c'est un site qui permet de faire des liens entre des donneurs et des récepteurs.
Ah, c'est bien.
Voyez bien que l'activité physique sauve des vies.
Mm-hmm.
Par ici, l'ADN. Sixièmement, plus de lait dans le frigo du bureau. S'offrir pour aller en chercher. Récolter les remerciements éperdus des caféinomanes. Remonter une deuxième fois les escaliers. Convaincre tout le monde de s'inscrire comme donneur au registre de la Fondation Swap the World, accepter sans modestie la cape scintillante de super-héros. Et là-dessus, on prend une petite pause musicale, puis je vous reviens avec d'autres conseils pour se préparer à être en forme pour Noël.
Silver bells, silver bells. Ring-a-ling, hear them ring.
Sharon Jones et de Daptones, Silver Bell.
Oh, je pensais que c'était Monique. Enfin. Donc, je continue avec d'autres conseils de Geneviève Lefebvre, qui, dans son carnet d'endorphines d'hier, nous prépare une marche vers Noël pour devenir en forme. Donc, son septième conseil, c'est organiser des réunions actives avec ou sans déguisement de fée des étoiles. Dans la télésérie de West Wing, qui parlait de ce qui se passait à la Maison-Blanche, chaque conversation d'importance était amorcée par une phrase désormais célèbre, « Walk with me ». Viens faire une petite promenade.
Oui, c'est ça.
Qu'on se le dise, discuter stratégie d'affaires, gestion de défis et esprit d'équipe en marchant, c'est la meilleure façon de trouver des solutions nouvelles à de vieux problèmes. Huitièmement, sortir dîner et pousser l'escapade jusqu'au petit restaurant coréen, celui où on ne va jamais parce qu'on le trouve un peu loin. En marchant vite, il n'est pas si loin que ça. Et ses bibimbap sont fameux. Avez-vous déjà essayé ça, bibimbap?
Non, je connais
c'est
pas ça.
C'est tellement bon.
Ah oui?
OK, je vais vous envoyer une adresse.
Oui, oui.
Neuvièmement, laisser faire le lunch. Ça, c'est une autre journée, j'imagine. Et aller marcher. Revenir avec trop d'idées, énerver tout le monde, sauf Linda, à la comptabilité. Apprendre qu'elle est inscrite au Gaspésia 100. Une course du bout du monde en ultra-trail. D'ailleurs, il faudrait peut-être inviter Isabelle Bernier, ça serait intéressant.
Bien
ça.
Bien sûr.
Comme quoi, on peut être comptable et parfaitement cinglé. C'est ma sœur qui va être heureuse d'apprendre ça. Dixièmement, en sortant du bureau, faire son têteux en arpentant toutes les vitrines de la rue. Comparer, supputer, évaluer. Me semble qu'elle était belle, la robe de chambre rouge, à sept coins de rue d'ici. Rebrousser chemin. On ne rigole pas avec ça, le choix du cadeau pour notre amour, s'énerver en voyant l'heure, piquer un sprint jusqu'au métro. Onzièmement, se grayer d'un sac à dos et décider que pour Noël, on fera toutes les emplettes à pied, dinde comprise. Un coup rendu chez le boucher, découvrir que le monstre ne rentre pas dans le sac à dos. Revenir en portant le ptérodactyle dans ses bras. Vous essayerez ça, vous autres, 5 km à voir du monde se retourner pour rire, ça force le caractère. Riez, riez, braves gens. Qui c'est qui aura la dinde la plus juteuse et des biceps d'acier à Noël? C'est Bibi. Douzièmement, se mettre au chant choral.
Ah, comme Marie.
Comme Marie ou comme tantôt la dame qui chantait à Noël.
Oui, oui, oui.
Faire le tour des maisons du quartier. La partition de Marie-Noël à la main. Le flasque de radoune dans la poche, la tuque de lutin enfoncée jusqu'aux yeux. Ramasser des voisins en chemin. À mesure que le kilométrage augmente et que le niveau de radoune baisse, constater un certain effritement dans le répertoire. Les cantiques ont cédé la place aux chants de marins. Qu'importe, la vie de quartier, il n'y a que ça de vrai.
Puis-je vous demander ce qu'est la radoune?
Ça doit être une boisson forte
hein?
Pas nécessairement vendue à la SAQ.
D'accord.
Peut-être. Treizièmement, dans la chaîne de la maison familiale, retrouver le traîneau de bois de notre enfance, celui pour lequel on s'est tant disputé entre frères et sœurs. Aller chercher le sapin de Noël dans la forêt, en gang, et en se disputant pendant des heures jusqu'à ce qu'on trouve le sapin parfait, c'est-à-dire un petit maigre avec la cime croche. Une tradition, ça se respecte. Arriver à Noël en même temps que tout le monde, même pas essoufflé, à peine stressé, et la résolution du nouvel an déjà bien installée, se faire du bien, ça fait du bien à tout le monde. Alors, c'était le carnet d'endorphines, marcher jusqu'à Noël. Moi, je vous suggère de l'imprimer puis de le mettre sur votre réfrigérateur.
Merci des bons conseils.
Ça me fait plaisir. OK. Là, on parle de sérieux, par exemple.
Oui.
L'intelligence artificielle.
Oui.
Pour le meilleur et pour le pire?
Pour le meilleur. En fait, pour les soigner l'épilepsie réfractaire.
Réfractaire.
Oui. Vous allez comprendre à la lecture de l'article. Et je m'excuse, j'ai oublié de dire de quel sujet j'allais traiter. Je me suis lancée. J'ai compris la question. Excusez-moi. Bon, j'espère que je ne serai pas virée, Maurice. Non, d'accord. Alors, c'est un texte rédigé par Dang Kowa Nguyen, qui est professeur au département de neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'était dans UDM Nouvelles du 27 septembre 2018. Alors, l'épilepsie touche près de 1 % de la population mondiale. C'est l'une des maladies donc neurologiques les plus fréquentes. Bien que 2/3 des patients épileptiques répondent adéquatement aux traitements pharmacologiques, il y a quand même une importante proportion des personnes qui continuent malheureusement à avoir des crises persistantes, bien sûr invalidantes et imprévisibles, d'où le réfractaire.
Oui, oui,
d'accord?
Oui.
Ces crises peuvent s'accompagner de chutes, de blessures, de fractures, d'une anoxie cérébrale ou même entraîner la mort, ce qui est extrême, hein, vous en conviendrez.
Mm-hmm.
Afin de minimiser ces risques, une intervention rapide est nécessaire. Mais ce n'est pas toujours évident dans un contexte hospitalier autant qu'à domicile. Il est rare que pareille intervention, c'est-à-dire rapide, soit effectuée. Donc, les patients sont souvent seuls lorsqu'une crise survient et celle-ci peut alors être ignorée par le personnel soignant ou même les proches aidants. Alors, avec les progrès que l'on connaît depuis les dernières années en matière de capacité de calcul et de traitement de données des ordinateurs, ben, l'intelligence artificielle, l'AI, pourra occuper une place prépondérante dans la médecine de demain, et donc dans le domaine de la santé, et ces avancées permettraient de faciliter le diagnostic, de personnaliser le traitement des patients, en améliorant, bien sûr, la qualité globale des soins prodigués. Alors, au cours de la dernière décennie, le groupe du professeur Nguyen a exploré plusieurs pistes basées sur des avancées microélectroniques en intelligence artificielle afin de répondre à cette problématique-là. Donc, lui et son groupe se sont initialement concentrés sur la conception de microsystèmes implantables dans la boîte crânienne qui enregistreraient en continu l'activité cérébrale couplée à un algorithme de détection des crises. Alors, cela permettrait d'alerter les patients, les parents, les aidants ou les professionnels de la santé lors d'une crise pour réaliser une intervention précoce, voire administrer automatiquement un traitement local tel que la libération d'un médicament ou une stimulation électrique qui serait inhibitrice, pouvant faire alors avorter la crise dès son début. Plus récemment, ils ont pu démontrer qu'il était possible de prédire des crises au moyen d'algorithmes basés sur des techniques, encore une fois, d'intelligence artificielle, en sondant l'activité électrique du cerveau bien avant la crise, comme les météorologues le font pour prédire le temps qu'il fera demain. Alors, ils travaillent depuis peu en collaboration avec l'industrie pour concevoir des vêtements intelligents en mesure de détecter précocement les crises de manière non évasive et discrète. Parce que quand on met des implants dans le cerveau, c'est invasif. Et ça, sans, comme on le dit, qu'il y ait des électrodes sur la tête. Comme les patients en crise font fréquemment des mouvements et des bruits et qu'il y a une augmentation souvent du rythme cardiaque et une respiration anormale, les chercheurs pensent que ce serait alors possible de percevoir la venue de crise à l'aide de techniques, encore une fois, de l'intelligence artificielle, à partir de signaux physiologiques avec les vêtements intelligents, autres donc que l'activité cérébrale. Donc, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, activité électrodermale, activité motrice, les sons, tout ça serait mis à contribution et ce serait par des capteurs miniaturisés intégrés dans ce vêtement intelligent et, on l'espère, confortable. Donc, la recherche est quand même bien avancée et pourrait même aider peut-être la diminution de la consommation de médicaments pour les autres
qui n'ont pas cette
épilepsie réfractaire. Alors, c'était un article de Dang Kowa Nguyen, qui est professeur au département de neurosciences de la Faculté de médecine pour UDM Nouvelles du 27 novembre 2018.
Merci, Monique.
L'éclat de tes yeux, le désordre de tes cheveux, l'odeur de ton corps, ton visage quand tu dors, ta peau faite de soie qui glisse sous mes doigts, les élans de paresse où s'endorment nos caresses. Oh, j'aime bien, bien le matin. Pensais te garder au lit. S'il y a rien qui t'appelle, je resterai bien dans tes ailes. Il fait chaud, il fait bon, je me sens à la maison. J'aime bien, bien le matin. Je veux plus te quitter, t'es mon chandail préféré. Oh, j'aime bien, 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 bien. J'aime bien.
Le matin par Samuel.
Oh, le matin. Alors, quelques brèves entre Monique et moi. Mm-hmm. Je commence avec le chiffre de la semaine dans la presse d'hier. 19
481. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que
c'est votre seul indice, c'est « oh ». Alors, c'est le nombre de chiens qui ont visité les parcs de la CEPAC de 2016 à 2018 dans le cadre d'un projet pilote. Les chiens seront acceptés dans certains secteurs de la plupart des parcs dès le printemps prochain.
Ah, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les...
Pour beaucoup de gens.
Oui, oui. Oui.
Monique, c'est à vous.
Alors, moi, j'ai une nouvelle qui concerne la toxicologie, en fait, qui m'a beaucoup étonnée. C'est le retour de l'amiante aux États-Unis. Alors, l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, a autorisé sa réintroduction pour certaines utilisations dans l'industrie du plastique, du papier ou des revêtements de sol. Alors, écoutez, on va même limiter l'évaluation des dangers du minéral pour la santé et pour l'environnement, alors qu'on sait très bien que la fibre a été progressivement interdite dans près de 60 pays depuis les années 70 et on a été très touchés par ça. Puisque notre industrie était quand même très active. Mm-hmm. Alors, mais aux États-Unis, on ne l'a jamais totalement banni. Alors, M. Trump n'en rate pas une. Selon lui, son interdiction résulte d'un complot dirigé par la mafia. Et il dit qu'en 2012, dans un tweet, il nous dit donc que l'écroulement des deux édifices du World Trade Center le 11 septembre 2001, si on n'avait pas enlevé le minéral dans la structure de ces deux édifices, eh bien, ils n'auraient pas calciné. Mais il y a quand même 20 000 personnes par année qui meurent du cancer lié à la fibre, et ça aux États-Unis.
Alors, avec le temps qui nous reste un petit peu, je voudrais faire un petit bonjour à quelqu'un qui nous a quittés cette semaine. On a fait de la radio avec cette personne-là. Il s'appelait Michel Audet. Il s'occupait, entre autres, des questions de tourisme. C'était un raconteur fantastique. Et c'est lui qui nous a appris, à Marie et à moi, à bien lire un article en ondes. Alors, Michel Audet, où que tu sois aujourd'hui, j'espère que tu auras autant de plaisir que tu en as eu pendant ta vie. Une petite brève.
Une petite brève. Oh, excusez-moi, j'avais fermé mon document. Oh, excusez. Alors, la culture du Nil, elle est née au cœur du Sahara, alors qu'on pensait que c'était un endroit totalement sec. Eh bien non, parce qu'il y a des millions d'années, eh bien, ça poussait très, très bien.
Alors, on se revoit la semaine prochaine. On espère qu'on va être trois. À bientôt.